Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont les propositions faites par la Maison de la presse du Niger d'appuyer les médias publics et privés affectés par la pandémie du coronavirus. Sur un autre plan, nous revenons sur les violences exercées contre des enfants talibés, notamment ceux de Diffa, dont les échos nous ont parvenus. Et enfin, sur le plan sécuritaire, l'enlèvement du chef de village de Marqué dans le département d'Abala, région de Tillabéri. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir M. Issa Morou Madougou, journaliste freelance. M. Issa, bonsoir.
Bonsoir Fatih.
Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision en Tambara. Maimouna, bonsoir.
Bonsoir Fatih.
Roufaï Dandoua, journaliste freelance. Roufaï.
Fatih, bonsoir.
Au microphone, Fatih Zakari. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum de la presse de ce vendredi 12 juin 2020. Nous débutons ce forum par les propositions de mesures pour atténuer les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur les entreprises de presse au Niger. Il s'agit de propositions qui émanent de la Maison de la presse du Niger, dont le président a eu une rencontre à cet effet avec le Premier ministre Brigitte Raffini le 29 mai dernier. Le résumé de ces mesures avec Ibrahim Harouna, président du bureau du conseil d'administration de la Maison de la presse, joint au téléphone par Moussa Hassan.
À court terme, nous avons proposé une prise en charge pour 3 mois de d'eau et d'électricité pour tous les organes de presse, une subvention en carburant pour 3 mois, un appui financier direct aux organes des médias publics et privés, un appui en produits sanitaires, un appui direct aux journalistes mis en chômage technique, une subvention de cotisation sociale pour au moins 3 mois. Et à moyen terme, la création d'une redevance sur les appels téléphoniques ou l'Internet au profit des médias privés, la mise en place d'un plan d'appui financier conséquent aux médias pour faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19, l'accélération du processus de mise en œuvre du décret portant accès au marché public publicitaire de l'État et des démembrements. Enfin, à long terme, nous avons proposé au gouvernement de rehausser l'enveloppe du fonds d'aide à la presse, de revenir sur l'ancienne formule d'octroi direct du fonds d'aide à la presse, mais aussi la participation de l'État au fonds d'investissement envisagé par la Maison de la presse.
Pouvez-vous donc nous rappeler comment les organes de presse ainsi que les journalistes ont vécu les moments forts des mesures prises par les autorités relativement au coronavirus? Maimouna Diado, je commence par vous.
Fatih, bonsoir. Bonsoir donc également à mes chers confrères qui sont dans le studio. Et véritablement, ce que nous pouvons dire par rapport justement aux mesures prises par le gouvernement concernant la pandémie de COVID-19, c'est qu'il faut noter que les entreprises de presse se sont retrouvées dedans avec le personnel. Donc c'est vraiment difficile, il faut le reconnaître, parce que la plupart de ces entreprises de presse aujourd'hui n'arrivent pas à gérer les problèmes qui sont devant eux. Ça veut dire que, en fait, c'est quoi le problème? C'est que les journalistes, les hommes de médias, certains de nos confrères, de nos consoeurs se sont retrouvés en chômage technique, ce qui n'a pas été du tout facile pour ces confrères et consoeurs, parce que être en chômage technique et percevoir la moitié de son salaire, c'est très difficile aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les conditions ne sont pas réunies. Pour un travailleur des médias qui travaille du lundi jusqu'au lundi et qui n'arrive pas à avoir son salaire la fin du mois, Mais imaginez avec cette situation de Covid-19. Donc, ça veut dire que les entreprises de presse, comme le personnel qui travaille dans ces entreprises de presse, sont vraiment affectés par cette situation de pandémie, de coronavirus. Voilà, Fatih, en fait, ce que je pourrais dire par rapport donc à cette situation.
Samadou.
Oui, merci beaucoup, Fatih. Vous savez, la pandémie de la maladie à coronavirus n'a épargné aucun secteur. Mais diligence doit être faite pour les médias au regard du statut de ces entreprises de presse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Niger, nous n'avons pas véritablement d'entreprises de presse qui puissent vraiment s'adapter à toute situation. Et dans cette lutte contre la pandémie, les médias ont joué un rôle très, très important dans la sensibilisation, amener les populations à comprendre pourquoi des mesures barrières ont été édictées, à les éduquer pour que ces mêmes populations puissent intégrer ces mesures barrières dans leur comportement au quotidien. Donc, les médias ont été constamment aux côtés des gouvernants du pouvoir, du ministère de la Santé, pour mener des actions, des stratégies afin de stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Donc, il est tout à fait normal que l'État pense à des mesures d'accompagnement au regard de la situation très fébrile de ces entreprises de presse. Mais moi, je salue d'abord l'initiative de la Maison de la Presse à penser, parce qu'il faut que on pense d'abord déjà à quoi on devrait s'attendre face au gouvernement, parce que c'était quand même pas compréhensible à ce que le gouvernement puisse prendre certaines mesures pour certains secteurs, où on voit même aujourd'hui, il y a des milliards qui sont débloqués pour soutenir les entreprises privées via la Chambre de commerce, mais on n'a pas tout à fait entendu spécifiquement qu'est-ce qui a été fait pour la presse.
Pour les organes de presse.
Donc, pourtant, la presse était là constamment. Et aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'a pas été impacté. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'il ne faut pas oublier cela aussi. Dans la presse nigérienne, il n'y a pas toujours de mouvement d'ensemble. Même dans des conditions difficiles, il y a toujours des gens qui ne seront pas dans la danse. Or, pourtant, cette situation, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise de presse qui peut résister à cette situation. Il n'y a pas, notamment les organes privés, que ce soit de la presse écrite, passant par l'audiovisuel, même la presse en ligne, personne ne peut aujourd'hui être aussi résilient, résilient face à cette pandémie du coronavirus, aux effets vraiment, aux conséquences graves sur le bon fonctionnement. Puisque les médias privés se basent sur les couvertures médiatiques, la publicité,
les séminaires
et consorts, tout a été mis en stand-by. Il n'y avait pas assez de publicité, puisque ceux qui font la publicité aussi, notamment les compagnies de transport et autres, ont mis leur activité en stand-by. Donc maintenant, moi, je pense que cette période, c'est vrai, c'est passé, mais quand même, il y a toujours les séquelles. Comme l'a dit Maimouna, il y a des entreprises qui ont pu, qui étaient obligées aujourd'hui, et dans cette situation, de scinder leur personnel en deux parties. Une partie travaille pendant deux semaines ou bien une semaine, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui n'étaient pas en mesure de payer l'intégralité des salaires, qui ont pu proposer des demi-salaires à leurs employés. Vous voyez, c'est un peu très compliqué. Et moi, je pense que cette situation encore devrait servir encore de leçon, à vouloir réfléchir pour aller vers vraiment à des entreprises fiables, des véritables entreprises de presse. Il faut que les gens aujourd'hui commencent à aller dans cette dynamique parce qu'une entreprise de presse ne doit pas être différente d'une entreprise autre qui doit aussi faire développer ses propres stratégies pour faire face à des problèmes conjoncturels ou bien des problèmes qui peuvent surgir.
Et Rufai Dandoua, qu'en pensez-vous donc de ces propositions faites par la Maison de la Presse aux autorités?
Oui, merci Fatih. Je pense qu'il y a des propositions qui tiennent la route, d'autres non. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que vraiment nous sommes dans un pays très complexe. Comme vous voyez aujourd'hui, déjà au sein de la Chambre de commerce, il y a déjà des réunions qui ont été faites par les soi-disant jeunes entrepreneurs qui font leur entreprise, qui n'embauchent même pas peut-être 2-3 personnes et qui ont déjà eu la capacité de contacter des dettes avec des banques. Et de l'autre côté, des entreprises de presse qui et certaines embauchent 30, 40, 50 personnes, puisqu'il y en a qui ont 30, 40, 50 personnes, on les sait parce qu'on a été et on est encore dans le milieu. Eux ou elles, on ne leur dit rien. On ne leur fait rien. Il faut déjà que la maison de la presse fasse un pas vers le gouvernement, rencontre le Premier ministre pour leur dire, voilà, on est dans des difficultés. Bien sûr qu'ils sont dans des difficultés. Ces gens-là font ce qu'on appelle le service public. Ils ont fait, ils ont accompagné le gouvernement, ils ont accompagné le ministre de la Santé, de la sensibilisation, et pour se protéger. Sinon, si ces gens n'avaient pas et contribuer à ce qu'il y ait des sensibilisations, peut-être que la maladie allait avoir une autre ampleur, et ceux qui aujourd'hui vont profiter de toute cette manne qui a été rassemblée ne l'auront pas fait parce qu'ils auront contracté la maladie, et peut-être que beaucoup n'en sortiraient pas. Moi, je pense que quelque part, ce que la maison de la presse a fait, le pas qu'elle a fait, ce n'est pas mal en soi, mais dès au départ, on aurait dû dire à ces entreprises de presse, voilà, vous allez nous accompagner à la fin, voilà le soutien qu'on doit vous apporter. Parce que de l'argent a été collecté par le comité mis en place pour lutter contre cette maladie, au-delà de ce qui a été prévu par les institutions internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, comme les institutions partenaires qui ont prévu de l'argent pour le Niger. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On ne sait pas. Aujourd'hui, on a dit, je crois, 150 milliards ou 250 milliards, je ne sais pas, pour les entrepreneurs, pour les soutenir afin de développer l'économie, mais aussi les entreprises de presse et des économies, elles font des économies. Au-delà des économies qu'elles font, elles embauchent des Nigériens, des jeunes Nigériens pour la plupart, qui ont des femmes, qui ont des enfants. Donc, ces gens-là doivent aussi être soutenus par l'État. Ils n'ont même pas besoin d'aller vers le Premier ministre. On doit prendre en charge leurs problèmes dès le départ. Mais maintenant, quand je disais qu'il y a des propositions qui ne tiennent pas la route. Moi, je n'ai jamais été d'accord, par exemple, sur le fonds d'aide de la presse qu'on donnait directement aux responsables de la presse qui n'ont jamais utilisé ça pour le bien des entreprises de presse, qui ont toujours utilisé cet argent pour eux-mêmes, pour leur bien personnel, pour leur consommation personnelle. Et donc, je pense que quelque part, il faut que dans les propositions, qu'on revoie certaines propositions et qu'on fasse en sorte que les propositions qui vont sortir les résultats qui vont sortir de la rencontre qu'il y a eu entre le Premier ministre soient ceux qui vont avantager ces entreprises de presse. C'est vrai, on dit par exemple qu'il faut prendre en charge 3 mois de loyer. Il y a ceux qui ont bâtiment personnel. Comment ça va se passer? Donc, je pense que ce sont des choses auxquelles il fallait y penser.
Maimouna Diado, qu'est-ce que vous pensez donc de ces propositions faites par la maison de la presse aux autorités?
Les propositions, en fait, je reviens, je suis totalement d'accord avec ce que Rufai vient de dire à l'instant. C'est que les propositions, il faut se dire la vérité. La maison de la presse, c'est vrai, c'est à féliciter, mais quand même, quelque part, il y a des propositions où vraiment, c'est pas, en fait, personne ne se retrouve dedans. Quand je dis personne ne se retrouve dedans, c'est les agents de ces médias qui ne se retrouvent pas dedans. Parce que, en fait, on a toujours vu que les patrons, l'État aide les patrons à travers des subventions et qui n'ont jamais pu faire quelque chose, même pour améliorer les conditions de travail de ces agents-là. Donc je pense que de l'autre côté, il n'y a pas question aujourd'hui que le fonds d'aide à la presse soit donné et distribué directement comme ça se faisait avant. Ça, nous, il faut que les promoteurs ou bien il faut que la maison de la presse soit, se dise que c'est quelque chose que nous allons combattre parce que ça n'a servi de toutes les mille manières à personne. Personne n'a été, ne serait-ce qu'une seule fois, mis en condition grâce à ce fonds d'aide à la presse. D'accord. Et je me dis également que il faut regarder l'aspect qu'aujourd'hui, ces travailleurs qui sont au niveau donc du chômage technique, d'autres ne savent même pas s'ils seront de retour très prochainement. Parce que tout simplement, il y a des promoteurs qui ont jugé qu'aujourd'hui, peut-être le temps est de régler le compte à certains hommes de médias. Donc, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on mette des agents en congé technique et qu'on leur dise que c'est illimité, qu'ils ne savent pas quand est-ce que ces agents-là vont rentrer. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on dise à ces agents que vous aurez la moitié de votre salaire, parce que ce n'est même pas des salaires, c'est des pécules. Pour quelqu'un qui prend 50 000 francs de salaire et qui se retrouve aujourd'hui au chômage technique avec 25 000 francs, et pour avoir les 25 000 francs, tenez-vous bien, il faut faire au moins un mois et demi pour avoir les 25 000 francs. Mais comment est-ce que vous voulez que ces pères de famille ou bien ces mères de famille aujourd'hui puissent s'occuper de leur famille correctement? Donc ça veut dire qu'ici, en temps réel et en temps normal, ces entreprises, il y a déjà des entreprises de presse qui ont fait faillite, il y a déjà des entreprises de presse qui sont sur cale et qui n'ont pas, c'est pas l'avènement de Covid-19 en tout cas qui les a fait mettre dans cette situation. Donc ça veut dire que la maison de la presse a encore de quoi réfléchir. Et la proposition que je ferai et que je voudrais augmenter pour que la maison de la presse également aille dans ce sens, c'est de se concerter avec les structures syndicales des médias, aller également voir, interpeller le Conseil supérieur de la communication, pourquoi pas le ministère de la communication, ainsi que la maison de la presse, faire des visites au niveau de ces organes de presse pour voir les conditions de travail, les conditions de vie et de travail que mènent ces agents. Donc ça serait très important et c'est un point que nous voudrons vraiment que la maison de la presse... Qu'elle puisse avoir le courage, en fait, de faire une telle proposition. Aujourd'hui, on finance les entreprises de presse, mais ce ne sont pas les travailleurs de ces médias qui sont en train de profiter de cette situation, de bénéficier de cet appui. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a calamité, c'est les entreprises, ce n'est pas les entreprises, ce ne sont pas les patrons. Les patrons n'ont rien à cirer de cette situation, mais pourtant, c'est les agents, la faute incombe toujours aux agents. Et aujourd'hui, on demande plus à ces agents de travailler, on leur demande plus de faire leurs devoirs que de les mettre dans leurs droits. Et nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Et je pense que vraiment, c'est une situation. Et on attend très rapidement que la réaction du Premier ministre par rapport à ces points énumérés par la maison de la presse, qu'un appui conséquent sera vraiment octroyé à ces hommes de médias. Parce que moi, je dis ces hommes de médias, parce que ce sont ces hommes de médias qui ont fait le travail, qui ont mené une lutte auprès, donc, à côté du ministère de la Santé publique, à côté du gouvernement, pour relever le défi de cette situation de pandémie.
Issa Madougou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Moi, je voudrais vraiment dans ma compréhension, qu'on cadre un peu la situation. Mm-hmm. Ce demande de soutien doit être uniquement lié avec le coronavirus. La mauvaise gestion des entreprises est antérieure à la situation du coronavirus. Donc, les gens doivent s'assumer.
Non, c'est parce que dans leur demande, ils ont fait des demandes antérieures à l'avènement du coronavirus.
Oui, c'est ça que j'aimerais. C'est même la maison de la presse. Normalement, la maison de la presse devrait bien cadrer ses doléances. Il faut les faire vraiment en fonction de ce contexte de coronavirus. Et ça, vraiment, c'est même un droit pour ces médias. Le fait simplement qu'ils ont été aux côtés du ministère de la Santé pour accompagner, sensibiliser, éduquer l'État nigérien. C'est aujourd'hui, s'il y a cette compréhension, cette perception de la maladie, ces chiffres aujourd'hui, ces statistiques dont les Nigériens aujourd'hui sont fiers de dire que nous, au Niger, on a pu contenir la propagation, c'est mais grâce aux médias. Donc, normalement, ces fonds qui ont été collectés, ces appuis-là, on devrait penser à la presse. C'est vrai, il y a des informations qui ont circulé faisant cas d'une aide que le gouvernement entend, mais dans la réalité, ça n'a pas été vérifié. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller plus au-delà de l'action avec le Premier ministre. Il faut aller vraiment au niveau même du président de la République. S'ils peuvent demander audience, aller exposer la situation. Puisque le président a dit que la communication, les journalistes, c'est une priorité. Il va faire en sorte qu'ils soient protégés, qu'ils exercent librement. Alors, s'ils veulent qu'ils exercent librement, il faut qu'ils n'exercent pas dans la précarité.
Oui, Issa Madougou, si ces propositions donc aboutissent, comment donc garantir une transparence et une équitable répartition auprès donc des vrais bénéficiaires?
Là, c'est un autre. C'est un autre
moi, c'est pour ça que quelque part, je me dis, ça n'a pas été. Ça a été fait peut-être de la précipitation, je ne sais pas. Hein. Peut-être que, et comme l'a dit Maimouna, la maison de la presse doit rencontrer les responsables des médias, bien sûr, les responsables aussi des syndicats affiliés à la maison de la presse et aussi les représentants ou les délégués des hommes des médias, parce que c'est eux qui souffrent. Vous ne pouvez jamais voir un promoteur de médias qui n'a pas une, deux, trois maisons à Niamey, qui n'a pas une, deux, trois voitures à Niamey, pendant que le journaliste qui est toujours sur le terrain n'a même pas un vélo ou une moto. Donc moi, je pense que quelque part, ça là, on doit faire en sorte que directement, par exemple, ceux qui ont fait le chômage partiel, directement qu'ils bénéficient de leur salaire intégral si l'État va le faire, et aussi des primes, des risques qu'ils ont encourus pendant cette maladie. Comme ça, ils vont profiter de ce qu'ils n'avaient pas eu au moment de cette crise de cette pandémie de coronavirus. Mais dans tous les cas, il faut qu'on s'asseye ensemble avec toutes les parties pour discuter, voir comment cela va profiter à chacun des agents qui a été sur le terrain pendant ces 2, 3 ou 4 mois de confinement ou de chômage technique. Sinon, je vous assure, connaissant ces entreprises des médias, connaissant ces patrons des médias...
Je vais répondre à ça.
Oui, si l'argent vient dans leur compte ou dans leurs mains, comme ça a été le cas ou comme c'était le cas avant, quand on leur donnait les fonds d'aide à la presse, il y a des gens qui ont eu 18 millions. Vous ne voyez même pas un franc de cet argent. Comment pensez-vous que ces gens-là vont encore donner quelque chose à ces pauvres agents de la presse? Je pense qu'il faut faire. Ouais. Et autre chose, il faut faire attention que les pouvoirs publics ne profitent pour faire en sorte que les gens ne soient acquis à leur cause parce qu'ils ont eu de l'argent. Non, ils ont fait leur travail de service public. Ils ne sont à la cause de personne. Ce sont des journalistes libres, des médias libres qui vont faire leur travail librement. Sinon, ils n'ont qu'à ne pas prendre de l'argent de l'État et aller chercher vers les institutions internationales qui ont l'habitude de les aider.
Issa Madou, d'écouter Rufaïa Dandoua.
Oui, je vais aller rapidement parce que vous posez vraiment un véritable problème de transparence. Là, ça me donne une idée. D'abord, la maison de la presse a, dans ses doléances, a plaidé pour les entreprises de presse. Alors que nous connaissons... Déjà un petit litige qui existe entre le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger et la maison de la presse, puisque c'est le 30 novembre, c'est eux-mêmes qui ont boycotté, tout récemment la dernière édition de 2010, la célébration, les stands, ils n'ont pas participé à la demande du réseau. Alors aujourd'hui, si l'argent arrive à tomber, si cette audience a eu un écho favorable, alors vraiment c'est un autre problème qui va surgir, puisque des gens qui ne reconnaissent pas l'autre. Alors pourtant, c'est de l'autre côté qu'est venu la demande. Alors, comment ça va se passer? C'est pour cela, dès le départ, je disais qu'il faut une synergie d'action. Dans la presse nigérienne, on a toujours ce problème de ne pas regarder dans la même direction, même au temps de crise.
Oui.
Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, on pense plus à nos intérêts.
D'accord. Issa et Madougou, nous allons donc à présent écouter donc Maimouna Ndiado.
Fatih, je ne peux que augmenter juste peut-être ce que les autres et emboîter le pas pour ce que les autres ont dit déjà. Donc ça sera vraiment très difficile en tout cas de faire une clarté normale de ce fonds si le fonds arrive à être débloqué au profit donc de ces médias. Donc il faut juste que la maison de la presse qui a fait la demande au niveau donc du Premier ministre, c'est à la maison de la presse aujourd'hui de prendre les mesures d'accompagnement, en tout cas, au cas où ce fonds sera octroyé, de prendre des mesures d'accompagnement pour que les uns et les autres ne soient pas lésés dans cette situation. Voilà, donc je rejoins à peu près ce que Issa a dit. C'est juste ce que Rufai aussi a dit par rapport à ça, cette situation, comment est-ce qu'il faut la gérer. C'est juste que vraiment, il faut que désormais, les hommes des médias que nous sommes, que nous arrivons à également arracher nos droits. Parce que nous avons des droits et je pense que nos droits d'abord passent par les mesures comme la mise, passent par d'abord les conditions de vie et de travail. Quand il n'y a pas de conditions de travail, ça veut dire qu'il n'y aura pas une condition de vie également normale et juste. Et comme l'a dit Roufaï, les connaissants, les patrons, tout celui qui va avoir son compte, l'argent viré dans son compte, le simple employé ou bien l'employé qui est en train de travailler durant toute cette situation de pandémie à COVID-19, ou bien celui qui se retrouve en chômage technique, ne sentira même pas l'odeur de cet argent à plus forte raison. Même dire, voilà ce que nous allons vous donner à juste récompense pour vous récompenser.
Nous abordons le deuxième sujet du forum de la presse. Un marabout d'une école coranique de Diffa, interpellé le 7 juin dernier par la police après donc les plaintes de la population. Le marabout serait responsable de coups et de sévices corporels sur ces talibés qui ont été transférés au district sanitaire de Diffa. À ce sujet, je propose de suivre Mamadou Hari. Il est le président de l'Association des écoles coraniques de Diffa, au micro de notre correspondant de Diffa, Lawan Bouka.
Lorsque j'ai appris cette information, dans un premier temps, je n'ai pas cru. Après, quand je suis que c'est vrai, ça m'a beaucoup touché. Mais les choses ne sont pas telles qu'on les raconte. D'après les échos que j'ai eus, ce marabout était en voyage. À son retour, de façon exagérée, les gens lui ont raconté que ces talibés ont commis une faute. Il s'est fâché et leur a infligé cette correction qui n'est pas du tout normale. Nous condamnons cet état de fait. Ce n'est pas une pratique des écoles coraniques. Diffa est reconnue pour l'école coranique. Sur 10 ménages, les 8 sont pour des gens qui ont étudié le Coran. C'est un événement qui ne s'est jamais produit depuis nos ancêtres. C'est donc un accident. Que Dieu nous évite cela à l'avenir. Et nous attirons l'attention de nos parents. Il ne faut pas qu'ils donnent aux autres la chance de se moquer de nous.
Que savez-vous de plus sur les circonstances de ces violences en question survenues dans la région de Diffa, Issa Madou?
Effectivement, c'est comme les autres citoyens nigériens et ceux du monde entier, nous avons appris cette information avec indignation parce que vu les images de ces enfants, vraiment ça touche le cœur. Quand même, on ne peut pas comprendre que au nom de l'enseignement, au nom de l'apprentissage, qu'on puisse vraiment battre ces enfants comme si on est dans une époque révolue, à l'époque de l'esclavage. Mais néanmoins, c'est qu'il faudrait extrêmement contextualiser tout cela. Est-ce qu'il ne suffit pas de dire de condamner? Moi, je pense que d'abord, c'est quoi? Cela montre qu'aujourd'hui, les écoles coraniques sont toujours dans cette dynamique à ne pas être contrôlées. Et vous savez très bien que quand on avait dit au départ, moi, je me rappelle, l'actuel ministre de chargé de culte, le ministre de l'Intérieur. Ils avaient organisé un forum où ils voulaient à ce qu'il y ait un encadrement au niveau des écoles coraniques. Les gens se sont levés comme ça pour dire oh, non, même la pratique de la religion ou bien l'enseignement coranique, on veut nous interdire. Pourtant, voilà, c'est ce genre de situation. Moi, je pense que dans d'autres pays, il y en a. Vous vous rappelez, là, en 2019, le scandale d'une telle une école pareille qui s'est passée à Kaduna, au Nigeria, où ces enfants étaient même enchaînés.
Sur les réseaux sociaux.
Effectivement. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours un regard des services de la protection sociale par rapport aux écoles et de l'autorité de tutelle. Parce qu'on ne peut pas laisser vraiment... Quand il s'agit de l'éducation, ça n'engage pas seulement l'enfant, ses parents ou bien son maître. Ça engage la nation tout entière. Parce qu'il doit servir une nation une fois qu'il aurait appris ce pourquoi il est parti. Donc moi j'estime que c'est vrai, c'est condamnable, mais quand même cela nous ramène à la question de vraiment de réadapter ces écoles coraniques aux réalités, vraiment du respect du droit de l'enfant. Parce que l'enfant, même dans l'apprentissage, doit le faire dans des conditions où ses droits sont respectés, où cet enfant bénéficie d'une protection. Mais quand même, on voit que c'est comme si c'est une période où les gens s'agitent. Non, il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut proposer des solutions. Aujourd'hui, Cela démontre également que ce n'est pas seulement Difa, hein, c'est pratiquement dans tout le Niger qu'aujourd'hui, dans les écoles coraniques, il y a la nécessité aujourd'hui de revoir les choses pour aller vraiment dans une autre vision, pour que ces écoles coraniques servent davantage les apprenants et la société.
Le temps donc de revenir dans ce studio avec Rufai Dondoua. Nous allons écouter donc Maimouna Diadou.
Oui, Fatih, par rapport à cette situation des écoles coraniques, la dernière en date avec l'école coranique de Difa, où les enfants ont été vraiment battus jusqu'au sang, parce que les images le montrent ainsi. Et je pense qu'il y a vraiment... on doit refonder, ou si je peux le dire, on doit réorganiser ces écoles coraniques. On doit réorganiser ces écoles coraniques. On doit interdire ces genres d'actes au niveau donc, de ces écoles coraniques. On doit finalement, comme on l'a interdit, la chicotte au niveau de ces écoles publiques, il faut également interdire cette pratique au niveau de ces écoles coraniques. Les écoles coraniques, pour les parents qui envoient leurs enfants au niveau donc, de ces écoles coraniques, c'est pour apprendre le Coran. Mais est-ce que pour apprendre le Coran, pour faire apprendre le Coran à un enfant, vous avez besoin d'utiliser ce genre de pratique pour que l'enfant puisse apprendre véritablement le Coran? Je me dis que non, et je me dis que les parents qui envoient également de temps à autre sont également responsables, parce qu'il faut un suivi, il faut de temps à autre aller regarder ce qui se passe dans l'école où vous avez envoyé vos enfants pour aller étudier le Coran. Et vraiment, c'est déplorable. Je pense que la justice doit sévir. Et déjà, le procureur, on l'a entendu sur les réseaux sociaux par rapport à cette situation. Et vraiment, que justice soit rendue pour ces enfants. Ces enfants n'ont voulu que d'être dans ces écoles que pour apprendre le Coran, comme ça se fait de tout temps. Mais est-ce que avant même, nos parents, nos arrière-parents ont été maltraités de cette manière pour apprendre le Coran, Fatih? Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Les enfants ont des droits. Il faut respecter les droits de ces enfants-là. Et je pense que c'est le droit. Aujourd'hui, ces enfants ont la justice a le devoir de mettre ces enfants dans leurs droits. Ça veut dire tout simplement de faire en sorte que ce genre de pratique cesse dans toutes les écoles coraniques.
Nous avons donc écouté donc votre intervention. Pour vous, donc, il faut interdire donc la chicotte dans les établissements coraniques. Rufai Dondoua.
Oui, vous savez, Fatih, aujourd'hui, ces images ont été choquantes. C'est vrai, ça a choqué l'opinion publique de voir ces enfants avec des traces dans le dos. Les sévices corporels ont été interdits dans les écoles. Mais il faut se dire que ce qu'on a vu, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mm-hmm. Aujourd'hui, on l'a su parce qu'on est dans l'heure du numérique, dans l'heure des réseaux sociaux. Tout ce que vous faites, ça sort rapidement. Mais moi, je me souviens que quand on était petit, ça se faisait de la même manière. Moi, je me rappelle que c'était pour ça qu'un jour, notre père nous avait enlevé de l'école. On n'était pas... à un village, on était chez nous, on nous a amené à l'école coranique, mais un jour le marabout avait chicoté très bien une de nos sœurs et notre papa avait dit que non, ce n'était pas pour ça qu'il nous avait amené à l'école coranique, c'était pour aller apprendre. Mais c'est pour vous dire que avant aujourd'hui, et je vous parle de quelque chose qui date de plus de quoi 25-30 ans que ça se passait. Aujourd'hui, on le sait parce que rapidement, tout ce qui se fait est dans les médias, sur les réseaux sociaux, et tout le monde est au courant. Mais ce n'est pas tant le problème seulement du marabout, c'est aussi le problème des parents. Tu ne peux pas prendre ton enfant, par exemple, de Niamey, tu l'amènes à quoi, 200, 300 kilomètres de Niamey, tu l'amènes comme ça chez un marabout, tu ne l'amènes pas avec ce qu'il va manger, tu ne l'amènes pas avec ce qu'il va boire, et tu l'amènes chez un marabout. Déjà, l'enfant n'apprend pas le Coran pour lequel il est parti. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la rue en train de commander. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup des enfants dans la rue ou des mendiants, si vous voulez. Donc, je pense que y a le problème des parents et il y a aussi la force de l'État qui n'intervient pas dans l'éducation des enfants, qui a abandonné et tous ces enfants à leur sort. Donc, quelque part, vous voyez, c'est tout un ensemble de problèmes. Les parents, l'État et aussi les marabouts qui, aujourd'hui encore, se disent qu'ils ont tous les droits sur les enfants qu'on leur a amenés pour qu'ils apprennent le Coran. Et quelque part, je pense qu'il faut, comme l'a dit Memouna, refonder, pas réorganiser, refonder l'enseignement coranique au Niger. Pas que l'État s'immisce pour dire voilà ce qu'on va enseigner. Non, on ne peut pas imposer ce qu'on va enseigner parce que c'est le Coran.
D'accord, Moussa.
Les gens sont refusés. Il y a un forum qui a avec des marabouts. Moi, je me rappelle un des thèmes qui a été débattu à l'époque lors du forum, le fait même de recenser. Ça a posé problème. Quand on dit aux gens de vous déclarer à l'autorité, quand vous êtes dans une commune, allez-y, les gens ont refusé.
C'est là où c'est important de montrer ce genre des images, même si le choc, mais ça fait froid au dos et ça montre aux gens qu'il y a urgence à changer les choses.
On passe donc au troisième et au dernier point de ce forum de la presse. Le dimanche 7 juin 2020, dernier vers 16 heures, des hommes armés non identifiés sur quatre motos ont enlevé le chef du village de Marké Diori, le nommé Jibrila Diori d'Ijubo. Le village est situé à 12 km à l'est de Sanam, dans le département d'Abala, région de Tillabéri. Pour rappel, en mai 2019, le chef du groupement Peul d'Abala a été enlevé par des individus armés. Puis le chef du village de Damarké, deux assassinats par des inconnus armés en novembre 2019. Comment expliquer la persistance de ces enlèvements dans cette zone, M. Dandoua?
Je me rappelle, on a trop parlé ici à la persistance de ces enlèvements, comme vous l'avez dit, qui peut même être aujourd'hui à la base du refus de certains héritiers de chefferie de se présenter, parce que vous êtes dans des incertitudes incroyables où vous coopérez avec ces individus armés qui viennent pour prendre tout ce que vous avez, qui vous tuent, qui tuent vos familles, ou vous ne coopérez pas et encore vous êtes en proie à leur bon vouloir. Pratiquement, les chefs traditionnels ne savent plus à quel sein se vouer. Et aujourd'hui, il revient à l'État central ou aux régions de prendre des dispositions nécessaires pour que ces chefs coutumiers qui sont là pour travailler au nom de l'administration publique, qui sont là pour être le courroie entre la population et l'État central, il faut qu'on prenne des dispositions pour les sécuriser, parce que ce n'est pas la première fois, vous venez de le rappeler, certains qui sont pris, qui sont capturés, d'autres qui sont tués physiquement. Donc je pense que quelque part, il faut que l'État prenne des dispositions nécessaires. Mm-hmm. Et au passage, il paraît que celui qui a été capturé, c'est le frère de Diori. C'est ça, non, un confrère qui du milieu. Donc, au passage, on a une pensée pour lui. Je pense que quelque part, il faut qu'on revoie encore la stratégie comme ça se fait et tout le temps. Ce n'est pas la première fois. Qui sait encore demain qui sera capturé, puisque ce sont des zones qui sont dangereuses. Souvent, il y a des villages qui deviennent des zones de non-droit parce qu'il n'y a personne qui est là pour les sécuriser. Voilà. Il faut qu'on prenne des dispositions.
La Memouna Diado.
Oui, en fait, pour ce qui est de la zone de Sanam, depuis 2019, il n'y a que des enlèvements, des tueries de ces chefs traditionnels. Et je me dis que, d'une part, ce sont ces chefs qui sont visés parce que quand ils refusent de collaborer, soit on te tue, soit on t'enlève et on demande également une rançon après pour te libérer. Et je me dis qu'aujourd'hui, ces chefs traditionnels doivent être donc en fait on doit les sécuriser. On doit les sécuriser. On doit sécuriser au-delà de ce chef de population. Alors, je pense que vraiment, c'est une situation qui a trop duré. C'est une situation vraiment que l'État n'arrive jusqu'à présent, n'arrive pas à contrôler dans cette zone de Sanaa. Et disons que la paix revient de ce côté et que les États également, l'État nigérien, puisse prendre des mesures vraiment très rapidement pour contrecarrer cette situation qui a trop duré.
Est-ce donc possible de mettre fin à ces actes d'enlèvement dont sont victimes les chefs coutumiers? Si oui, comment donc y parvenir?
Mais c'est très difficile. C'est très difficile de mettre fin à ces actes d'enlèvement que subissent ces chefs traditionnels. C'est très difficile, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas des fois la présence de l'autorité pour vraiment les sécuriser. Donc, quand il n'y a pas l'autorité, il y a des endroits où l'autorité n'existe même pas. Donc, ça veut dire que ces populations sont laissées à elles-mêmes et elles doivent se défendre coûte que coûte sans l'autorité. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que je vous assure, je voudrais bien que ça termine, que ça finisse une fois pour toutes dans cette zone. Mais quand même, c'est très difficile. C'est très difficile
Issa,
pour
parvenir
à mettre fin à ça.
Oui, Issa Amadou, est-ce donc possible de mettre fin à ces actes d'enlèvement?
Je voudrais d'abord que vous compreniez un peu de quelle région nous parlons. Nous parlons du nord de la région de Tillabéri. C'est une région très complexe, une partie du Niger très complexe. Vous savez, c'est un peu complexe parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus grave dans cette situation? C'est que les assaillants sont toujours non identifiés. On ne connaît pas qui est à la base de ça. Qui sont d'abord ces assaillants? Qui sont les commanditaires? Donc, pour mettre fin, moi, je pense que c'est un travail de longue haleine qui doit être abattu. Parce que cette zone aujourd'hui, c'est une zone de radicalisation. Moi, je pense que c'est une synergie d'action avec tout le monde qui mettre fin à cette situation.
Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci donc à nos invités. Issa Madougou, journaliste freelance. Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara. Et Rufaya Dandoua, journaliste freelance. Je vous rappelle donc le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi donc de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur la production, la commercialisation et la consommation du Moringa. Et dimanche, le forum en Germain sur la contribution des artistes dans la lutte contre le COVID-19. La régie son est assurée par Seine Isaka et la régie vidéo Mustapha Ayouba.